content de vous voir ce matin. Vous savez, quand on doit apporter le message, on cherche un peu ce qu'on va dire, et puis on imagine un peu la salle, les choses, tout ce qui va se passer. Et ce matin, je suis arrivé dans l'église, j'ai vu qu'il y avait 6 personnes. Je me suis dit, ah, je vais parler pour les bancs. Mais je suis content que vous soyez là. Gloire à Dieu. L'Éternel est vivant. Donc, tout ce qu'on a déjà on a parlé ce matin, tout ce qu'on a chanté, je peux résumer un peu le message de ce matin, parce qu'on a parlé de pardon, de relation, de la bonté, de la fidélité de Dieu, de sa grandeur, et même de la foi en ses promesses. Et de cela, je pense que vous avez certainement remarqué comme moi que quelque chose ne fonctionne pas dans notre humanité, quelque chose d'extrêmement profond et présent en nous depuis des siècles, fait que la relation entre l'homme, entre homme et femme ne fonctionne pas. La relation entre Dieu et homme ne fonctionne pas, ou de manière très exceptionnellement de très courte durée. Donc, je vous propose ce matin un petit voyage dans le passé, un petit retour en arrière, pour voir un peu qu'est-ce qui fait que dans notre humanité, nous ne pouvons pas vivre des relations épanouies dans la famille, dans le voisinage, au travail, et quelquefois même dans l'église. Le premier livre de la Bible, Genèse, nommé le livre du commencement, que je vous propose d'ouvrir, contient le texte de la création de l'univers et de l'homme. Celui-ci fait état, comme son nom l'indique, du commencement. La première phrase de ce livre, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Par la suite, nous est détaillé ce qui suivit du premier au septième jour. Je vous passe tous les détails. Mais au verset 31 du chapitre 1, « Tout était très bien » termine le récit du sixième jour où sont créés l'homme et la femme. Ils ont été créés à l'image de Dieu, avec cette capacité d'être comme un vis-à-vis par une relation avec Dieu. Ils sont tous les deux égaux dans leur identité, dans cette identité, ce privilège, cette vocation de vivre à l'image de Dieu. Ils sont tous deux placés dans un jardin, le jardin d'Éden, tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Leur relation se devait être riche, épanouie, complémentaire, de vis-à-vis. Dans ce jardin, il y eut une permission et un commandement. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Très important, car sur ce commandement repose l'alliance entre l'Éternel Dieu et l'homme. Donc, pourquoi les choses vont si mal alors que tout était très bien? Pour répondre à cette question, du début, notre Dieu nous a donné une histoire que je veux regarder avec vous ce matin, car c'est là que nous trouvons l'explication de ce qui est arrivé sur Terre aux origines et qui fait que le monde est ce qu'il est devenu aujourd'hui. Venez avec moi en Genèse chapitre 3, pour un petit retour dans le passé, comme j'ai dit, un récit qui a été inspiré du Saint-Esprit pour nous expliquer comment, à l'origine des choses, les souffrances et le mal ont fait leur entrée dans l'humanité. les principes qui sont à l'œuvre dans ces quelques versets traverseront toute la Bible. Un enfant peut comprendre cela, comprendre ce texte, et un philosophe peut passer toute sa vie à l'étudier. Parce qu'il y a une dimension historique dans ce récit, car son but est de nous montrer, de nous faire comprendre quand, comment les choses sont parties en vrille. Quand et comment les choses ont commencé à dérailler. Et cela peut nous aider à comprendre aujourd'hui pourquoi nous sommes dans ce contexte où à la fois il y a des facettes merveilleuses de la vie comme ces instants où que nous partageons maintenant là, par le moment d'une relation fraternelle que nous vivons présentement, mais que en même temps, on sait très bien que peut-être cette semaine ou cet après-midi même, d'autres choses viendront nous rappeler que nous ne sommes pas encore au ciel. Alors, quand est-ce que les choses ont dévié? Genèse chapitre 3, versets 1 à 13. Ensuite, nous verrons ensemble quelques vérités importantes pour notre compréhension ce matin. Lisons ces quelques versets. Genèse chapitre 3, versets 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux, des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons de tous les fruits, du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en prit de son fruit, et en mangea, et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Ce chapitre a toujours soulevé beaucoup de discussions et malgré toutes les attaques, toutes les critiques, toutes les tournures en dérision au fil du temps, il est le récit qui demeure le plus pertinent et le plus utile, l'unique, pour permettre de comprendre en partie le mystère du mal, et nous devons regarder réellement ce texte avec ce qu'il dit. Non pas ce qu'on pense qu'il dit, ou ce que les autres disent qu'il dit, mais ce qu'il dit vraiment. La toute première vérité que je voudrais mettre en avant, qui est extrêmement importante, que nous dit le texte, c'est que le mal a eu un commencement. Le mal, le péché sont apparus à un instant T de l'histoire. Le mal n'apparaît pas dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire, en Genèse au début, au chapitre 1, ni au chapitre 2. Mais là, le mal est entré. Le mal a fait son apparition. Et le fait que le mal soit entré nous montre que le mal n'existait pas en tout temps. Le mal n'est donc pas éternel, c'est-à-dire il n'est pas hors du temps. Il y eut un commencement et le péché qui s'en est suivi aussi. Il n'était pas là, rappelez-vous, au commencement dans Genèse, au premier chapitre, au verset 31. Dieu a dit, tout était très bon. Affirmer et croire que le mal a eu un commencement n'est pas sans importance et loin d'être un détail. Pourquoi? Parce que cette affirmation-là fait une énorme différence avec, par exemple, une autre philosophie qui cherche à expliquer l'origine des choses. Et cette philosophie s'appelle le yin et le yang. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai fait un petit symbole. Il y a ce symbole-là qui représente cette philosophie. Voilà. Et dans cette philosophie, il y a l'idée est la suivante. C'est qu'en fait, toutes les choses au niveau de l'univers s'équilibrent et réellement, on peut fonctionner par cette espèce d'auto-équilibrage où les choses se mélangent, se suivent continuellement. Les choses se mélangent et il y a du froid, du chaud, il y a du coup du bien, du mal, et les deux existent perpétuellement depuis toujours et existeront toujours. C'est ça cette philosophie. Seulement, ce que ne comprennent pas ceux qui adhèrent à cette philosophie du yin et du yang, c'est que quand on diffuse ces idées, quand on croit à ce type d'approche, c'est en réalité, ils font du mal, ils cautionnent le mal, puisque c'est là depuis toujours, ça a toujours existé, donc ça va continuer comme ça. Des temps de guerre, des temps de paix, des temps de meurtre, et puis des temps d'alliance. Mais la Bible nous dit tout le contraire. Le mal a eu un commencement. Il n'existe pas de toute éternité et il n'était pas à l'origine. Autre chose que nous apprend ce texte, deuxième vérité, c'est que le mal est entré par un instigateur. Il est entré avec l'aide d'un acteur mystérieux décrit sous la forme d'un serpent, ce type d'animal qui, de par sa forme, symbolise le plus tout ce qui est tortueux, ce qui n'a pas vraiment de forme fixe, il s'adapte. Mais alors, qui se cache derrière? La Bible est très claire dans l'Apocalypse, le serpent, c'est Satan. Dès le commencement, le diable apparaît déguisé et tortueux, contredisant la parole de Dieu, proposant une autre explication du monde. Décrit comme étant un ange qui avait sa demeure dans le ciel, mais qui a été précipité soudain sur la terre, suite à son orgueil et à sa rébellion contre l'autorité et l'ordre de Dieu. La Bible dit, son intelligence et son pouvoir surpassent de loin les capacités des humains. Il a la faculté de répandre des idées et des courants de pensée divers avec l'intention d'entraîner les humains dans une révolte contre la vérité divine. Et lorsqu'il apparaît dans ce chapitre, au verset 1, dans la forme du serpent, c'est afin d'entraîner la création et l'humanité dans cette même chute dont lui-même il est tombé. Donc, l'auteur décrit dans ce paragraphe le plan de Satan pour assaillir nos premiers parents afin de les séparer de Dieu, ce qui nous permet de comprendre un peu notre humanité. Jean, chapitre 8, verset 44, nous dit que Satan est le père du mensonge. Et le verset 4 de notre texte constitue l'essence même de ce que Jésus appelle le mensonge, c'est-à-dire tout propos contredisant la parole de Dieu. Comme ce que l'on voit par ce dialogue avec Ève. Satan Satan est un fou, un rusé qui fait naître le doute. Comprenons par le mécanisme de la tentation qui est de remettre en cause la bonté de Dieu de façon à nous rebeller contre lui. Voyez comment il procède dans le texte. Dieu a-t-il réellement dit cela? Et puis, une fois qu'il a la réponse, mais ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Dieu sait bien que si vous devenez comme lui, il n'est plus seul. C'est ça la ruse. Et c'est arrivé par le mensonge, par la rumeur, le chuchotement qui nous fait mettre en cause dans nos pensées, nos raisonnements, la bonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit et nous décrit que la racine, la source de tous nos malheurs, vient de cette remise en cause de la bonté de Dieu. C'est l'affaiblissement de sa foi en la bonté de Dieu qui a été la cause réelle de la chute. La foi d'Ève, bien sûr. Il n'y avait aucune circonstance dans le jardin d'Éden pour expliquer pourquoi une telle rébellion. Il n'y a donc aucune excuse. Tout était très bon. Tout était très bon. Tout était fait pour que ses premiers ancêtres jouissent et profitent de cette création. Mais l'orgueil et le mensonge ont entraîné un acte de désobéissance. C'est ce que nous voyons dans le texte. Maintenant, troisième chose que nous dit le texte, que nous dévoile cette histoire. Troisième vérité que nous dévoile cette histoire clairement, c'est que c'est bien l'homme et la femme qui ont tous les deux désobéi à l'Éternel. Et nous trouvons cette explication dans le fait que Dieu interroge et l'homme et la femme pour leur part de responsabilité. À aucun moment on ne voit dans le texte que l'un serait plus fautif que l'autre. C'est un faux raisonnement, une fausse interprétation. Car Dieu considère la femme responsable et lui pose une question, si vous regardez bien, et il considère l'homme comme responsable et il lui pose une question. Nous ne pouvons absolument pas faire une échelle de valeur de qui est le plus fautif. Ils ont tous les deux désobéi. Ceci dit, nous voyons décrit dans ce récit la toute première rupture d'alliance entre Dieu et sa création. Le verset 6 est le plus tragique du récit. Il marque le moment historique précis où les premiers humains ont chuté, transgressé la loi de Dieu. Ce commandement du verset 17 au chapitre 2, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » La désobéissance, le rejet, la mise en cause de la bonté du Créateur ont entraîné un déchirement aussi bien dans le monde spirituel que dans le monde terrestre et matériel. Partant de ce constat, je voudrais pointer avec vous les conséquences relationnelles qui ont suivi cette rupture dans notre histoire. Car le rejet et la mise en cause de la bonté de Dieu, lui qui avait tout fait parfaitement, eut des conséquences relationnelles incroyables. La première qui a surgi, c'est la honte. La honte nous envahit tout d'un coup lorsque la relation avec Dieu est rompue. En lisant le chapitre 2, on voit que lors de l'alliance, de ce magnifique cheminement qui a amené au mariage, il y avait absence de honte entre les versets 18 et 25 du deuxième chapitre. L'homme et la femme étaient nus, sans éprouver aucune honte. À ce moment précis, leur différence sexuelle n'en est en aucun cas un problème. Immédiatement après la chute, leurs yeux s'ouvrirent et ils se rendent compte qu'ils étaient nus. Verset 7. Mais ils étaient déjà nus, ils le savaient. Ils le savaient déjà qu'ils étaient nus. Mais le mal était entré. Le mal est entré. Ce qui était une pure et simple devient honteux. Malheureusement, avec la honte, la peur aussi va faire son entrée. Regardez le verset 3 du chapitre. Le verset 10 du chapitre, pardon. Ils répondirent, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Je ne sais pas si vous ressentez la gravité de cette expression. J'ai eu peur. J'ai eu peur de toi, mon Créateur. J'ai eu peur d'une autre, une grande frayeur. J'ai eu peur. À présent, l'homme a peur de Dieu. Il se cache de celui qui, il y a quelque temps, disait, « Il n'est pas bon que tu sois seul, je vais te faire une vis-à-vis. » J'ai entendu, j'ai eu peur parce que je t'ai entendu. C'est là toute la perversité du mal et ça renverse les relations, n'est-ce pas? Avant la chute, il existait une intimité particulière avec Dieu, avec l'éternel Dieu, pardon. Satan a réussi à insuffler que Dieu n'était pas si bon que ça. Et maintenant, il le croit. Il le croit. La peur a fait son entrée dans la relation entre l'homme et Dieu. Et arrive à lui faire croire que peut-être que Dieu peut-être. Ne nous arrive-t-il pas encore aujourd'hui éventuellement de tomber dans ce même piège? Peut-être que Dieu ne veut pas que tu aies ce travail-là. Peut-être que Dieu ne veut pas que tu puisses te marier. Ou peut-être que si Dieu a permis cette maladie, c'est parce qu'il ne t'aime pas vraiment, etc. S'il y a une chose, un domaine où Satan est nul, c'est dans son originalité. Il est rusé, il est cruel, mais il ne change pas beaucoup ses méthodes. Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ça fonctionne. Remettre en cause la bonté de Dieu, c'est son jeu favori. Et nous tombons si facilement. La peur est l'effet de la honte. Face à la peur, certains préfèrent se retirer, se cacher comme Adam. Comme il a fait, on se cache, on a peur. Par peur du rejet, on se cache de Dieu. Et aussi on se cache les uns des autres. Une autre conséquence relationnelle, la culpabilité. Il y a une réticence fondamentale à admettre que sa faute est établie dans cette histoire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Avouer sa culpabilité pose problème. Lorsque Dieu interroge Adam et sa femme, la réponse est quand même révélatrice, tant elle est déraisonnable. Au lieu de reconnaître carrément leur péché, Adam et Ève l'ont esquivé en reportant leur faute sur les autres. Implicitement, Adam impute à l'Éternel Dieu, à mot couvert, la responsabilité de la chute. Celui qui s'extasiait de ce que Dieu lui donnait, un merveilleux vis-à-vis, a vite oublié ce qu'elle devait être pour lui. C'est la femme que tu as placée auprès de moi. Donc, non seulement il la jette sous le train, mais il accuse Dieu de lui avoir donné une amie, de lui avoir donné une partenaire. C'est elle. Et Ève n'a pas d'autre choix que d'avoir la même stratégie et la même réponse. Et la réponse de chacun est révélatrice. La culpabilité, voyez-vous, est trop lourde à assumer. La seule solution que nous connaissons, c'est de nous défendre, trouvant un autre coupable. ceux qui ont pratiqué le mal nient toujours l'évidence des faits quand on les interroge. N'est-ce pas aussi notre stratégie? Elle ne fonctionne pas toujours. Elle ne fonctionne pas toujours pour autant. Mais il faut le reconnaître, c'est plus fort que nous. Vous vous rendez compte des effets du péché, cette remise en cause et ses conséquences relationnelles? La honte, la peur et la culpabilité qui nous envahissent et pourrissent bien des situations relationnelles avec Dieu et avec nos semblables. Émotionnellement, on ne se sent pas bien. Probablement, en ce moment, quelqu'un est dans le jardin de Dieu, honteux. Il a peur de Dieu, il se sait coupable. Et cela a des conséquences sur ses relations. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer encore une vérité, la plus importante de Genèse 3, de l'histoire de notre humanité. Le cœur du texte, du message du texte ce matin, une véritable nouvelle, je dirais. Lorsque Satan entre en jeu dans ce récit, quand le mal entre, quand le péché entre, Dieu reste de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Dieu reste de Dieu. Il n'est pas tombé, il n'a pas chuté, il n'a pas été corrompu, et le mal n'est pas entré en l'éternel Dieu. Le mal, le péché est entré dans sa création, il est rentré en nous, en toi, en moi, et dans toute la nature. Il n'est jamais entré en Dieu. Dieu est resté Dieu. Et le plus merveilleux, c'est qu'il n'est pas parti, il n'a pas anéanti aussitôt sa création en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Non. Où es-tu ? Il est resté et il a commencé à agir. Arrêtons-nous sur ce qu'il a fait et comment il a commencé à agir. Quand Dieu arrive dans le jardin, il se met à chercher. Où es-tu ? Croyez-vous que Dieu ignore ce qui s'est passé ? La question posée montre bien que l'Éternel Dieu sait déjà que quelque chose a changé dans l'homme. Il est Dieu. Il est omniscient. Mais alors, il cherche et il appelle Adam. Oui, le poison de la peur est entré, le commandement est brisé. Mais cette histoire nous montre que l'amour s'oppose à la peur. Dieu nous cherche et nous appelle. Où es-tu ? Dieu pose des questions. Il nous responsabilise. Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé ? Pourquoi as-tu fait cela? Dieu pose des questions et nous responsabilise parce que le Dieu de l'Alliance attend de ses créatures qu'elles avouent, qu'elles viennent de briser le commandement. Il veut faire jaillir de leurs erreurs la sincérité et la vérité. Donc il t'appelle, il te cherche dans ta prison de culpabilité, de honte ou de peur. Il est là. Il t'appelle, il te cherche parce qu'il ne veut pas te perdre. Le seul espoir pour nos relations n'est pas dans le déni, n'est pas dans la défensive, n'est pas en rejetant la pierre sur quelqu'un d'autre. C'est pas moi, c'est lui, c'est la femme, c'est le serpent. C'est toi, Dieu, si tu ne m'avais pas donné cette femme. Non. Mais dans l'art à faire face à nos responsabilités. L'espoir pour nos relations, c'est dans l'art à faire face à nos responsabilités, à assumer l'entière responsabilité de ce qui a été mal. Les questions de Dieu laissent donc la possibilité à l'aveu de la faute. Le fait que Dieu nous responsabilise, c'est l'assurance que derrière, il peut y avoir pardon. Il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas de responsabilité. Vous en conviendrez. Il y a certainement des conséquences à affronter, mais en revenant à Dieu, nous ne vivrons plus dans la peur qui paralyse, mais dans une crainte respectueuse qui me fait dire que Dieu est Dieu. Dieu est un Dieu qui pardonne, et qui pardonne comme nul autre. Même dans les pires moments de la vie, il reste miséricordieux. Ce matin, il t'appelle, il te cherche, laisse-le te visiter, t'apporter la paix que tu as besoin. Jamais Dieu n'a écrasé, méprisé, rejeté quelqu'un qui a été honnête, reconnaissant sa part de responsabilité. Celui qui, par son péché, s'éloigne de Dieu est loin de toute bénédiction, esclave de Satan sur la route de la ruine. Si l'Éternel n'avait pas recherché, appelé Adam comme le bon berger sa brebis, cette âme perdue n'aurait eu aucun espoir de bonheur et de paix. Alors même lorsque le commandement est brisé, la relation rompue, Dieu reste Dieu. Il est fidèle à son alliance. Alors, tout ce qu'il veut de chacun, c'est reconnaître sa culpabilité, confesser ses péchés pour retrouver la paix et le réconfort dans une communion restaurée. Et je terminerai en vous disant, affermissons notre foi en la parole de Dieu. Elle donne une raison saine et un comportement sensé. Soyons déterminés à obéir au commandement de l'Éternel Dieu afin de demeurer dans sa grâce et sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse.